Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h sur Radio Kapi, la radio de la paix. Voici la grande édition du soir présentée par moi, Gisèle Cage. Au menu de cette édition, voici les principaux titres. Makala, les portes s'ouvrent pour une nouvelle vague des détenus. Après la sortie de 125 détenus, le parc général clarifie. Aucune connexion avec le choléra, mais une opération ciblée pour libérer les personnes détenues irrégulièrement et désengorger la prison. RDC, la Constitution souffle ses 20 bougies. Deux décennies après sa promulgation, le texte fondateur de la Troisième République divise entre hommage au bilan démocratique et appel à une nouvelle loi fondamentale. Armes illégales, l'État congolais passe à l'action. Placide Prosper Katumbai Bulungu, skater permanent de la CONADECI, dévoile à notre micro la nouvelle stratégie lancée en Bujimaï pour couper court à la prolifération des armes et renforcer la sécurité. Il est notre invité dans le journal. À Makala, la vague de libération s'est poursuit. Après le 125 détenus relâchés récemment, le parquet général près la cour de cassation assure aucun lien avec l'épidémie de choléra qui touche la prison. Il s'agit, précise-t-il, d'une visite d'inspection de routine menée par le procureur général Firmin Vonde Mambu et d'une opération ciblée visant les personnes détenues irrégulièrement pour des cas bénins afin de désengorger la prison. Les précisions sont tombées sur mercredi à Kinshasa. La conseillère en communication et presse du procureur général revient sur ces libérations et leur véritable objectif. Madame Sutuzolana est au micro de Lievin Mbuinga.
C'était une routine qu'il a l'habitude d'effectuer lors de sa visite d'inspection au niveau du CPRK. Il a constaté qu'il y avait des détenus en situation irrégulière. Alors c'est ce qui a fait qu'il puisse libérer de ces 125 détenus et aussi une manière pour lui de désengorger la prison. Une manière pour lui de libérer des détenus qui ont été incarcérés pour de faits bénins.
Y a-t-il un rapport entre cette libération et le choléra qui sévit sur place?
Non, pas du tout. Le procureur général par la Cour de cassation, M. Firmin Vonde Mambu, avait eu une réunion avec les chefs d'office de Kinshasa, disons, les deux procureurs généraux de Kinshasa et le procureur de la République, donc ce sont des chefs d'office. À l'issue de cette réunion, il avait annoncé qu'il allait faire des visites d'inspection. Et c'est ce qui a fait qu'il puisse se retrouver au niveau du CPRK et voir cette situation qui était au niveau du CPRK avec cette épidémie.
Province du Kwilu à la prison centrale des Bandundu, l'heure est grave. Depuis 8 mois, accéder à un simple repas relève du parcours du combattant. La raison, près de 9 mois sans la moindre subvention du gouvernement central. Résultat, le 391 détenus ne survivent aujourd'hui que grâce à la générosité de quelques particuliers. Plusieurs parmi eux sont déjà tombés malades. Et ce n'est pas tout, selon le vice-président du cadre de concertation de la société civile qui tire la sonnette d'alarme, la situation serait encore plus dramatique dans d'autres prisons du Kwilu. L'accès aux soins de santé est lui aussi quasiment impossible. Face à cette crise humanitaire qui s'aggrave derrière les murs des établissements pénitentiaires, Placide Moukoua appelle les autorités à agir d'urgence pour sauver des vies. Il s'exprime au micro de Jean-Claude Tangamo de la radio communautaire Radio-Télévision Bandundu Développement.
La situation dans la prison de Saint-Quentinaire à Bandundu en particulier et partant dans tous les restes des prisons dans la province est déplorable. C'est depuis le mois de juillet dernier que le gouvernement n'envoie plus l'argent destiné à l'alimentation des prisonniers. Du coup, sur les 371 détenus, dont 5 femmes et 10 mineurs, le manger devient un problème. Il faut aller s'endetter, trouver des sacs de manioc, trouver du bois de chauffe à crédit pour venir nourrir ces prisonniers-là. On ne parle pas de cette situation-là à l'intérieur de la province, à Idiofa, à Gungu, à Bulungu, à Masimanimba, à Kikwit et à Barata, la situation demeure encore le plus catastrophique. Nous en appelons aux autorités qui arrêtent les citoyens, les criminels et les gens qui sont condamnés, que les prisonniers aussi ont leurs droits. Les autorités doivent trouver une solution rapide à ces problèmes. C'est aussi cette situation qui entraîne des évasions massives des prisonniers.
Kasaï Central focus sur la justice ce soir à Kananga. Le tribunal de grande instance a lancé ce mardi une série d'audiences foraines entièrement consacrées au cas de viol sur mineurs. Des audiences délocalisées qui se tiennent directement à la prison centrale de Kananga. Les prévenus, tous originaires du territoire de Luisa, ont été arrêtés grâce au travail de l'ONG Amour Plus. L'organisation a non seulement monté les dossiers, mais aussi accompagné les victimes vers une prise en charge juridique complète. Une action menée dans le cadre d'un vaste projet de résilience communautaire déployé dans la zone. Pour comprendre les enjeux de cette opération judiciaire et les témoignages recueillis sur place, direction Kananga. Voici le reportage d'André Katende Ngalamulume.
13 prévenus originaires du territoire des Luisa comparaissent devant la justice pour des faits présumés de viol sur mineurs. Les dossiers ont été constitués par l'ONG Amour Plus RDC dans le cadre du projet d'appui à l'autonomisation des filles et au renforcement de la résilience des communautés. Ces programmes visent à prévenir et à répondre aux violences sexuelles ainsi qu'au mariage précoce dans la province du Kasaï Central, en particulier dans les territoires de Luisa. Grâce à cette initiative, 13 victimes ont pu accéder à la justice après avoir longtemps souffert en silence. Ces audiences foraines bénéficient de l'appui technique et financier de l'UNICEF avec le soutien du gouvernement norvégien. La tenue de ces procès constitue une étape importante dans la lutte contre l'impunité et envoie un signal fort en faveur de la protection des droits des enfants et des jeunes filles au Kasaï central. Kananga, André Katendengalamulume, Radio KPI.
Kasaï Oriental, en visite à Mbujimayi, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, passe à l'écoute. Il a lancé une série de consultations populaires dans les territoires des Kabeya Kamwanga. Objectif affiché, prendre le pouls du fonctionnement de l'appareil judiciaire dans la province et identifier avec la population les blocages qui freinent l'accès à la justice. Les précisions d'Esther Ndalafina.
Dès son arrivée à Kenankuna, chef-lieu du territoire de Kabeya Kamwanga, le ministre d'État en charge de la justice a organisé des consultations populaires. Les chefs traditionnels ont dénoncé des arrestations arbitraires, un manque de considération de leur rôle et une ingérence persistante dans les affaires coutumières. Roger Kabuya, chef du groupement de Bakwa Mulumba, a dressé un tableau préoccupant.
Pour paraître le genre d'arbitraire, on n'est pas plus en bonne. Ce muscle comme tout, mais des agents de sécurité vont dans les territoires, dans les villages pour faire souffrir là, sans passer par le chef. Et quand il y a des arrestations, on vient, on arrête le chef, tu viens parce qu'il n'a pas été mis au. Les jeunes du village commencent à avoir l'eau de venir porter plainte contre les chefs. Un mandat d'amener qui est envoyé décerné.
De son côté, Pascal Kapeta, président du conseil territorial de la jeunesse, a plaidé pour une amélioration des infrastructures judiciaires et des conditions de travail de magistrats. Très attentif aux doléances, Guillaume Ngefa a annoncé la mise en place dans un délai de 3 mois d'une commission chargée de suivre les recommandations formulées lors de ces consultations. Le programme du ministre prévoit également ce mercredi une visite de la prison centrale de Mbujimayi ainsi que du palais de la justice afin de constater de près les réalités du terrain. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
C'est 18 février 2026 marque un cap symbolique. La Constitution de la République démocratique du Congo fête ses 20 ans. Texte fondateur de la Troisième République, elle avait été promulguée en 2006 par l'ancien président Joseph Kabila à la suite d'un référendum populaire. 20 ans plus tard, le débat sur son avenir est relancé. Dès fin 2024, le président Félix Tshisekedi avait annoncé sa volonté de doter le pays d'une nouvelle loi fondamentale, jugeant celle de 2006 d'inadaptée et rédigée à l'étranger. Depuis son adoption, une seule révision majeure a eu lieu, c'était en 2011. Du côté du PPRD, certains défendent fermement l'héritage du texte actuel. Pour Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du parti, cette constitution a joué un rôle clé dans la consolidation démocratique du pays. On l'écoute au micro d'Alain Ronga.
Une seule modification à 20 ans, je crois que nous devons beaucoup nous féliciter, surtout nous, les disciples de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, parce que j'étais un regard historique sur notre pays, sur la politique, c'est que aucune constitution qui envisageait d'asseoir la démocratie et l'état de droit dans notre pays n'a prospéré. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, la seule qui a prospéré, pour être âgé de 20 ans aujourd'hui, c'est quand même celle-là que nous avons aujourd'hui. Et chaque fois, félicitations donc à la maturité politique aussi de ce peuple, parce que chaque fois qu'un dirigeant veut faire ce qu'il veut de cette constitution, il trouve toujours une barrière de ce constitutionnalisme congolais qui a l'article 220 qui a interdit la révision de certaines dispositions qui sont le socle même de la démocratie dans notre pays, le socle même de l'état de droit.
Et le débat ne s'arrête pas là. Après la défense du texte par certains acteurs politiques, d'autres voix appellent ouvertement à tourner la page. C'est le cas d'Ntumba Tshabola Bintou, député national honoraire et cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Pour lui, la constitution de 2006 porte encore les marques du contexte de belligérance dans lesquelles elle a été rédigée. L'une de ses principales faiblesses, affirme-t-il, 20 ans plus tard, il estime qu'elle comporte de nombreux écueils et qu'elle doit être modifiée, voire totalement remplacée si le peuple congolais en décide ainsi. On écoute Ntumba Tshabola Bintou.
La constitution du 18 février 2006 vient de totaliser 20 ans aujourd'hui. Mais le contexte dans lequel cette constitution fut écrite, personne ne l'ignore. C'était le contexte de la belligérance. Le peuple congolais a tous les droits de réviser ou de changer la constitution. Il faut bien lire l'article 5 de la constitution qui stipule, je cite, « La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection indirecte par ses représentants. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Ça veut tout dire que personne ne peut empêcher au peuple congolais d'exercer normalement son droit de souveraineté. Donc, le pouvoir émane du peuple. Si le peuple veut garder la constitution, tant mieux. Si le peuple veut le changer, ça ne pose aucun problème. Mais après 20 ans, plusieurs analyses ont montré que notre constitution a des écueils qu'il faut rectifier. Si cela nécessite une révision ou une modification, cela ne posera aucun problème.
Au Nord Kivu, le cri d'alarme est clair. Une dizaine d'organisations locales engagées dans la protection de l'enfant exigent l'arrêt immédiat du recrutement des mineurs par les groupes armés. Réunis mardi à Goma lors d'une table ronde organisée en marge de la journée internationale de l'enfant soldat commémorée chaque 12 février, elles ont dénoncé la persistance d'enrôlements forcés malgré les années de plaidoyer initiées par la protection de l'enfant de la MONUSCO. Cette rencontre a permis de rappeler l'ampleur du phénomène et d'interpeller l'ensemble des belligérants toujours actifs dans la région. Bernard Nyangui nous en dit davantage.
Ces jeunes défenseurs des droits de l'enfant dressent un constat alarmant. Malgré les efforts consentis, des milliers d'enfants continuent d'être enrôlés dans le groupe des forces armées en Nord Kivu. Kanika Sumbai, élève à l'Institut BI de Goma.
Jusque-là, sur le terrain, il n'y a pas vraiment de très grandes différences. Certes, il y a des efforts qui se font jour après jour, des cas sont dénoncés, certains auteurs sont sanctionnés, les enfants victimes de ces cas sont posés en charge, mais jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment assez d'impact.
Pour Ketia Babingwa du Parlement d'enfants, l'implication directe des communautés pourrait changer. La donne.
La base de tout, c'est la communauté, c'est l'éducation qu'on obtient dans la communauté. Si on commence déjà à sensibiliser la communauté, il y aura moins de gens qui voudront recruter les enfants dans les groupes armés, mais aussi chercher à contacter les gens qui font cette pratique afin de leur montrer les méfaits de cette pratique.
La section protection de l'enfant de la MONUSCO et ses partenaires locaux annoncent la poursuite des actions de sensibilisation. Après cette table ronde, une deuxième activité est prévue dans une école de Goma afin de sensibiliser élèves et enseignants sur la prévention du recrutement d'enfants par les groupes armés.
En Ituri, la grogne monte. Plusieurs quartiers de Bounia restent plongés dans le noir, tandis que ceux qui reçoivent encore un peu d'électricité dénoncent des coupures à répétition et des factures jugées exorbitantes émanant de l'entreprise GreenTech. Mardi, la coordination provinciale de la société civile a porté ses plaintes devant le caucus des parlementaires de l'Ituri. Son président parle d'un véritable abandon des autorités face à ce qu'il qualifie d'arnaque infligée à la population. Le point avec Isaac Remoyope.
Sur les 26 quartiers que compte la ville de Bounia, près des trois quarts ne sont pas desservis en électricité. Résultat, de nombreux habitants passent leur soirée dans les noirs ou se tournent vers l'énergie solaire et les groupes électrogènes pour les plus nantis. Dans d'autres quartiers, le courant est instable et les tarifs seraient trois fois plus élevés que ceux appliqués autrefois par la Sokimo, l'ancienne société chargée de la distribution de l'énergie en Ituri. La société civile, par la voix de son président Dieudonné Lossa, dénonce le silence des autorités provinciales et appelle les parlementaires à intervenir.
Tout le monde ne reçoit pas le courant. Il y a pour la plupart des cas le délestage. Les gens se posent la question pourquoi cette surfacturation. Trois fois plus, pour quelle raison? Comment les autorités ferment les yeux et laissent GreenTech arnaquer la population?
De son côté, la société GreenTech rejette ces accusations. Elle précise avoir mis en place un système de facturation prépayé basé sur la consommation réelle de chaque abonné. Alliance Kingoudi, chargée des communications de GreenTech.
Nous sommes en train de supprimer les factures forfaitaires pour justement laisser la gestion prépayée. Et je ne vois pas en quoi GreenTech parlera de la surfacturation puisque le prix du kilowattheure est connu, c'est à 0,26. Nous avons hérité un réseau vétuste. Nous sommes en plein chantier, c'est un grand travail ce que nous faisons. Nous avons promis d'être l'énergie pour tous et nous allons le réaliser.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité internationale. Le chef de la délégation ukrainienne, Roustem Oumerov, fait état des progrès à l'issue de la 12e journée des négociations tripartites à Genève entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis. Lors d'un bref échange avec les journalistes, il a confirmé que les discussions menées sur le volet politique et militaire restent complexes et nécessitent du temps, mais qu'elles avancent malgré tout. Selon lui, aucun détail ne peut pour l'instant être rendu public, les pourparlers restant strictement confidentiels. Les discussions qualifiées d'intenses ont duré moins de 2 heures ce mercredi. Elles s'ajoutent aux sessions de la veille, décrites comme très tendues par une source proche de la partie russe. La prochaine étape, explique Oumerov, consistera à obtenir un consensus suffisant pour soumettre un document au président concerné. L'objectif reste inchangé du côté ukrainien, parvenir à une paix juste et durable malgré les divergences persistantes avec Moscou.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui, c'est Placide Prosper Katumbai Bulungu, secrétaire permanent de la Commission nationale de désarmement de la sécurité internationale et de la lutte contre le terrorisme CONADECI. Il revient sur la rencontre tenue samedi 14 février à Mbujimayi, dans le Kasaï oriental, avec les agents récemment recrutés au sein de ce tout nouveau service de l'État. Créé en avril 2025, la CONADECI a pour mission de coordonner les actions de désarmement et de combattre la prolifération des armes, notamment à travers les campagnes de sensibilisation auprès des communautés. Placide Prosper Katumbai Bulungu est au micro d'Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur Placide Prosper Katumbai Bulungu.
Bonjour, madame.
Et vous vous retrouvez en Mbujimayi depuis quelques jours. Et aujourd'hui, nous voyons, vous êtes avec beaucoup de personnes dans la salle de l'hôtel Gloria. Est-ce que nous pouvons savoir de quoi il est question?
Effectivement, venu pour les circonstances du deuil, je ne pouvais pas rentrer à Kinshasa sans me rendre compte de l'état des lieux du fonctionnement de la CONADECI dans la province du Kasaï oriental.
Et après les échanges, comment la CONADECI fonctionne dans la province du Kasaï oriental?
Bon, j'ai trouvé que par rapport à certaines provinces, il n'y a pas eu encore un déploiement ou une visibilité du fonctionnement de la commission dans la province.
Quelles sont les raisons, d'après vous?
D'abord, il fallait au préalable former les gens, rencontrer le gouverneur de province qui représente les chefs de l'État, puisque la structure ne pouvait pas fonctionner sans l'aval ni la compréhension des buts et des missions de la CONADECI dans la province.
Quelles sont ces missions?
L'appellation même est déjà claire et des missions, qui est une commission qui a été recommandée à la République démocratique du Congo par le Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque étant un pays en état de guerre, dû aux différentes rébellions qui ont sévi et les guerres qui se sont succédées en République démocratique du Congo, il y a eu circulation des armes d'une manière désordonnée, ce qui a augmenté et créé encore plus l'insécurité de la population. C'est ainsi que les Nations Unies a recommandé au gouvernement congolais de créer cette commission afin de ramener le normal dans le pays, c'est-à-dire un pays sans circulation illicite des armes entre les mains de ceux qui n'ont pas le droit de posséder les armes.
Et comment au niveau de la CONADECI on peut arriver à pousser les gens à retourner ou à remettre les armes auprès du gouvernement, auprès de l'armée?
Voilà pourquoi il a plu aux instances supérieures de désigner et nommer un général de la police qui a de l'expérience, qui a de la matière, qui a un background confirmé pour peaufiner des stratégies et arriver à cet objectif.
Et les personnes que nous avons vues aujourd'hui venir vous écouter, les rôles qu'elles doivent jouer dans la province de Kasaï-Oriental?
Ils doivent être déployés sur terrain, aller vers le peuple par le truchement des chefs coutumiers, des administrateurs du territoire, des chefs de secteur, des chefs de village, ainsi que de la jeunesse, les sensibiliser à remettre et à renoncer à la détention illicite des armes.
Oui, il y a des endroits tels que dans le territoire de Katanda où il y a des gens qui sont armés et pourtant les personnes que nous avons vues, ce sont des civils. Comment elles peuvent se comporter sans protection? Comment ils peuvent arriver à sensibiliser?
C'est ce qui a amené le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, à mettre à disposition de la Commission les experts de la police nationale qui ont œuvré dans le système des Nations Unies et qui ont de l'expérience en cette matière.
Depuis que CONADECI fonctionne, quelles sont les actions qu'elle a déjà menées?
Justement, c'est une bonne question, madame. Nous avons déjà implanté la Commission dans plus de 22 provinces de notre territoire national. Il nous reste 4 provinces pour votre gouvernement. Au début de mon mandat, je me suis rendu dans le territoire de Kabeya-Kamanga. J'ai pu sensibiliser la population. Quelques armes ont été récupérées au siège du territoire à Chimbulu, dans le Kasaï central. Quelques armes ont été récupérées dans le Bas-Kombo et certaines provinces. Nous continuons par la méthode de sensibilisation. Mais que quand nous constatons la réticence, nous avons des informations qu'ils détiennent illégalement des armes, qu'il y a des caches d'armes, que nous recourons à des méthodes coercitives.
Monsieur Placide Prosper Katumbay Bolomou, merci.
Merci, madame.
C'était Placide Prosper Katumbay Boulongo, invité du journal, pour parler de la stratégie nationale de lutte contre la prolifération des armes. Merci d'avoir été avec nous à la technique Pierre Diassinois, avec la coordination éditoriale d'Élisée Chikota et la supervision d'Alain Rung. Je suis Gisèle Cage, ravi d'avoir été votre voix pour cette édition. Radio Capi, la radio de la paix, reste à vos côtés avec des informations fiables, claires et vérifiées. Rendez-vous sur nos plateformes pour prolonger l'expérience avec plus de contenu exclusif. À très vite.